SBS Radio.
Journal des sports, et on commence avec, bien entendu, du tennis. La quinzaine de l'Australian Open s'est terminée dimanche avec la superbe victoire de Novak Djokovic. On revient sur cette victoire avec Arnaud Di Pasquale.
On s'attendait à un choc, un duel de titans, au regard surtout du niveau de jeu produit par les deux hommes pour arriver jusque-là. Et finalement, Djokovic l'a emporté assez facilement, à la surprise un peu générale.
Djokovic a vraiment pris d'entrée à la gorge Rafael Nadal.
Oui, c'est impressionnant d'avoir réussi surtout à tenir sa ligne comme il l'a fait. Il a joué encore plus sur sa ligne et dans le terrain même qu'il ne l'a fait sur les tours précédents pour empêcher finalement Nadal de développer son jeu, pour lui enlever du temps, pour le faire rater, donc en jouant très tôt tout le temps. Et la difficulté, c'était de tenir et de n'avoir pas de baisse de régime de ce côté-là. Et c'est ce qu'il est parvenu à faire sur ces trois sets, avec des statistiques aussi assez affolantes, puisque uniquement... je crois que c'est 14 fautes directes en comptabilisant la demi et la finale cumulées, donc ce qui est absolument très peu, surtout avec la manière dont il a joué. Donc c'est quasiment un chef-d'œuvre, je trouve, de la part de Djokovic sur cette finale.
Rafael Nadal, il a eu quelques petites ouvertures, on l'a vu au deuxième, au troisième set, mais non, il a pas su passer la vitesse supérieure et les saisir malgré son bon parcours précédent à Melbourne.
Oui, alors c'est vrai qu'on s'attendait à un Nadal peut-être un peu meilleur en défense, et c'est ce qui lui a peut-être fait défaut aujourd'hui face à Djokovic, mais globalement son parcours est assez impressionnant aussi. Il perd pas un set avant d'arriver en finale, on joue un niveau de jeu quand même exceptionnel par moment. On l'attendait pas non plus à ce niveau-là, il est parti sur ce tournoi pour rassurer, il n'avait pas joué depuis l'US Open l'année dernière, donc beaucoup de difficultés, beaucoup d'abnégation aussi de son côté, et une force de caractère toujours aussi forte. On peut qu'admirer encore une fois sa prestation sur la quinzaine, même si cette finale, voilà, on peut pas dire qu'il passe à côté, je crois pas qu'il passe à côté, je crois qu'il est tombé vraiment sur un Djokovic stratosphérique, bien au-dessus du lot, qui était vraiment quasiment en état de grâce sur cette finale.
Arnaud Di Pasquale sur cette victoire donc de Novak Djokovic dans le tournoi contre Rafael Nadal. Chez les femmes, c'est Naomi Osaka qui a remporté le match face à Petra Kvitova. Super victoire, Naomi Osaka qui devient en même temps numéro 1 mondial du tennis. On va beaucoup entendre parler de Naomi Osaka dans les années à venir, c'est presque certain. Allez, du tennis toujours, et avec la super victoire également de Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. Les deux Français ont remporté le double et c'est un exploit puisqu'en fait, ils complètent ce qu'on appelle un grand chelem de carrière. Ils ont maintenant gagné ensemble 4 grands chelems, les 4 grands chelems. Ceci donc complète une belle collection. Retour sur cette victoire, encore une fois, avec Arnaud Di Pasquale.
Ouais, c'est super de les voir remporter ce tournoi. Enfin voilà, ils jouent ensemble depuis un moment, il y a une entente qui est parfaite. On sait que la communication est essentielle en double. Ils se connaissent par cœur et on sent que voilà, ils ont pas de limite. Ils battent les meilleures équipes, ils sont très forts, ils sont devenus des piliers en Coupe Davis ces dernières années. C'est pas un hasard, ils jouent très souvent ensemble et maintenant ils ont réussi à gagner celui qui leur manquait. Et ils marquent aussi l'histoire à leur manière, c'est une très 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 belle récompense du travail fourni par ces deux joueurs.
Arnaud Di Pasquale, allez on passe au vélo maintenant, cyclisme. Et c'était la semaine dernière la Tropical Amissa Bongo, course phare en Afrique. Retour et explication sur cette course avec RFI.
Cette étape sur cette tropicale Amissa Bongo, cette fois et pour la deuxième fois de la semaine, il a été remporté par le français de l'île de la Réunion, tout de même Lorenzo Manzin devant l'allemand Greipel et l'algérien Reguigui, encore placé, jamais gagnant. Un joli coup pour Manzin qui le ramène à 6 secondes au général du maillot jaune depuis une semaine, celui qui a remporté 3 étapes et qui remporte donc cette 14e édition, l'italien, vous l'avez dit, Nicolo Bonifazio. Manzin et Greipel donc complètent un podium 100% européen d'équipe française qui vont lutter jusqu'à mi-mars, on en a parlé, pour 2 invitations seulement pour 3 équipes sur le prochain Tour de France. Alors, est-ce que Bonifazio fait un beau vainqueur? Question posée à Thomas Voeckler, l'ancien pro maillot jaune sur le Tour de France. Il est un jeune retraité et parrain de cette édition. On écoute Thomas Voeckler.
Un beau vainqueur d'une course, c'est le coureur qui mérite de gagner, à la régulière, qui respecte les règles, qui est fair play. Je pense que c'est le cas de ce coureur, d'autant que son équipe a parfaitement géré la course et le travail d'équipe.
Un petit mot forcément sur les Africains dans cette course. Vous l'avez disputé 4 fois en tant que coureur, vous êtes maintenant suiveur, vous avez un œil avisé. Est-ce que vous les sentez vraiment progresser?
Oui, ils progressent. Alors, il y a des pays qui progressent plus vite que d'autres, bien entendu. Peut-être ont-ils plus de moyens, ils sont peut-être mieux structurés. Je pense au Rwanda et à l'Érythrée qui sont vraiment les deux fers de lance. on peut dire, de l'Afrique. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des équipes comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina Faso, comme le Cameroun, qui ont un petit peu plus de mal, mais je pense pas que ça soit un manque de potentiel physique, mais plus de peut-être de bonne volonté. Alors, est-ce dans leur propre pays ou alors de la part des instances du cyclisme international qui doivent aussi aider au développement du cyclisme africain? Mais très honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de coureurs africains lâchés sur cette tropicale. Ça roule à la vitesse de course en Europe, alors ils gagnent peut-être pas, ils sont pas ridicules du tout, ils arrivent à s'échapper, ils font la course. Il y a une dizaine d'années à la tropicale, le niveau du cyclisme africain était inférieur à aujourd'hui, ça c'est certain.
Voilà donc l'analyse de Thomas Vauclair sur cette course, la Tropicale Amissa Bongo. Allez, on passe au handball. Vous savez que le handball, c'est un sport phare également en France. Ah, mais ces coups-là, les Français, eh bien, ont perdu leur titre de champion du monde. Ils finissent troisième. La finale, c'était le Danemark contre la Norvège. Danemark, pays organisateur. Danemark, championne du monde.
Les Danois ont été injouables et pas plus que la première fois lors du tour préliminaire. Les Norvégiens ont pu enrayer la belle mécanique des champions olympiques devant leur formidable public de Herning. Déjà 7 buts de retard à la pause, 9 à l'arrivée. Et ça aurait pu être pire, franchement. Le Danemark est resté maître chez lui, devient maître du monde donc pour la première fois, porté par ses nombreuses individualités, à commencer évidemment encore et toujours par Mikkel Hansen, l'arrière du PSG. 7 buts ce soir et heureux comme tout de vivre un tel instant.
Gagner les Coupes du Monde ici à la maison, c'est un rêve, tu vois, quand tu es petit, jouer à la finale des Coupes du Monde devant 15 000 fans, c'est vraiment un truc incroyable. On a vraiment joué avec la confiance tout le temps et on a trouvé la solution chaque fois. Les autres équipes ont changé quelque chose, nous aussi on a changé des trucs et on a trouvé des super solutions pour chaque joueur.
Mikkel Hansen, sacré meilleur joueur et meilleur marqueur de ce mondial avec 72 buts. Avec lui, c'est une équipe du Danemark qui s'en va donc directement aux Jeux de Tokyo pour tenter le doublé.
Du suspense, il y en a eu quand même lors de la petite finale. Et la France qui s'est consolée en décrochant la médaille de bronze. Une victoire sur le fil face à l'Allemagne, 26-25.
Et comme on le pressentait, un match nerveux, étouffant, où les Français, mal partis, menés de 4 buts à la pause, ont fini cette fois par revenir. Un mano à mano qui s'est décanté, tout un symbole, grâce à un but de Nicolas Karabatic en contre-attaque à la dernière seconde. But validé après vérification vidéo. Incroyable coup du destin pour la vedette du PSG, revenu plus vite que prévu, on le sait, dans le groupe, après son opération au pied, et qui a mis la touche finale à l'obtention de cette troisième place. Alors si cette troisième place laisse un petit goût d'inachevé quand on connaît le statut et le potentiel des Français, eh bien, leur parcours dans ce mondial reste très honorable et sans occulter le manque de maturité de cette équipe en plein renouvellement de génération. Et la France peut toujours espérer évidemment aller aux Jeux Olympiques de Tokyo, elle aussi. Si elle n'est pas championne d'Europe l'année prochaine, elle disputera au moins un tournoi de qualification olympique.
Voilà donc pour le handball et on finit avec du football et les matchs de la journée de championnat.
45 minutes, c'est le temps qu'ont mis les joueurs du PSG pour résoudre l'équation suivante. Comment jouer sans chef d'orchestre? Neymar blessé à son maudit pied, la chorale parisienne eut du mal à démarrer, manque de justesse, soliste en sourdine, ensemble désorganisé, bref, un premier acte moyen conclu sur un score de parité, un partout. Mbanyang, le Sénégalais de Rennes, ayant répondu à Cavani, l'Uruguayen de Paris. Entracte, la suite, un récital, tout ce qu'il y a de plus classique avec le leader de Ligue 1, de la maîtrise, du beau jeu, des finitions chirurgicales, signé Di Maria, Mbappé et Cavani, encore lui, à l'arrivée 4-1, addition habituelle pour le patron. Dans les autres rencontres du jour, on se battait pour les accessites. Lyon a conforté sa troisième place en gagnant 1-0 à Amiens, but du Belge Denayer. Montpellier reste sixième après une victoire 2-0 sur Caen. Enfin, Toulouse et Angers ont fait match nul, 0-0. Les deux clubs restent dans le ventre mou à des années-lumière du PSG.
Voilà donc pour le journal des sports.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.